Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 28, Une Heure en Série, je le rappelle, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et toutes plateformes confondues chaque semaine. Ce soir, nous parlerons pensionnat carcéral et loges mystérieuses dans l'internat Las Cumbres sur Prime, ne riez pas, attendez le débat, devoir de mémoire et soir du racisme en Angleterre avec Small Axe sur Salto et enfin extraterrestre en perdition et intégration chaotique avec Resident Alien sur Sci-Fi.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Peut-être viennent-ils d'une autre planète, cela expliquerait quand même beaucoup de choses. Ce soir, avec nous autour de la table, et on la retrouve après quelques semaines d'absence, Marjolaine Boutet de Phosphore. Bonsoir, bonsoir. Marjolaine. Isabelle Danel de Bandapart.fr, bien évidemment. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Benoît Lagan, le 5-7, le vendredi matin de Mathilde Munoz, la meilleure raison de se réveiller aux aurores, évidemment. Et télématin, l'autre meilleure raison, évidemment, de se réveiller le matin.
Bonsoir.
Alors, un peu de courrier, donc comme d'habitude, j'enlève mes lunettes parce que je ne peux pas tout faire, voilà. Nous avons un courrier de Françoise qui, voilà, nous a écouté lors du débat sur Voltaire et qui ne partage pas complètement l'enthousiasme de certains de nos chroniqueurs, voire de nos chroniqueuses. Marianne Lévy, si vous nous écoutez, bonsoir. Certes, on a vu pire que Voltaire, mais on a vu mieux. Bah ouais, ça, surtout chez nos voisins anglais qui, dans le domaine de la reconstitution et de l'audace, Bridgerstone, Liaison dangereuse, restent inégalés. On a quand même la surprise de voir dans notre Voltaire un gros tuyau de gaz qui traverse la pièce. Les ampoules à la place des bougies. Oh, soyez moderne, Françoise. On ne leur en voudrait pas de ces anachronismes si le récit était enlevé, polémique, à l'image de ce Voltaire rebelle, mais le style étant pesé, le jeu des comédiens académiques et les répliques de Voltaire assénées comme à l'école. Voilà, dans la rubrique « Ils sont presque plus méchants que nous tous », c'était donc Françoise. Alors, Fabien de Guyane nous écrit, fan absolu de Marvel depuis 1982, on sent que la date est importante pour lui. Je vous remercie pour ces critiques parfaites de Vendée Vision. J'avais peur qu'en tant que fan et parfaitement de mauvaise foi, comme tous les critiques savent l'être, vous descendiez cette série que je trouve géniale. Arriver à faire vivre un monde de fiction, franchir le quatrième mur et maintenir le public dans le questionnement sur toutes les énigmes et les indices laissés au fur et à mesure. Mais vous avez su trouver les mots justes, chacun à votre façon. Merci, Benoît.
Et on peut dire qu'on n'avait pas tout vu, et maintenant qu'on a tout vu, on peut confirmer que c'est vraiment exceptionnel.
On avait raison.
Ouais. Mais vous avez toujours raison. Après, le dernier mail est pour moi, mais c'est normal, je l'assume. Bonjour, monsieur Le Herpeur. Samedi dernier, lors de l'émission et de la présentation de la première série évoquée, c'était la série Little Birds, d'après le roman d'Anaïs Nin. Vous avez situé Tanger au Moyen-Orient. Ce serait le résultat d'un sacré glissement de terrain pour cette ville du Maghreb. Bonnes émissions et bonne géographie. Alors, vous riez, mais personne ne m'a repris.
Oui,
c'est
vrai.
Voilà. C'est nul que alors, je voudrais pas être méchant ni tirer sur l'ambulance, mais tout de même, vous m'avez laissé dans une solitude et un manque de connaissances géographiques que j'assume complètement. Donc, merci beaucoup, Daniel Montanini, d'avoir rectifié. Effectivement, Tanger est bien dans le Maghreb. Oublions cela, ou au contraire, ne l'oublions pas. Et commençons notre premier débat, l'Internat Las Cumbres, les Cimes, une série en 8 épisodes disponible sur Prime depuis le 19 février. Un pensionnat nécessairement lugubre, perdu dans une forêt nécessairement touffue, où les élèves nécessairement à problème subissent chaque jour les privations et les humiliations d'une direction autocrate nécessairement perverse. Tout commence lorsque 4 d'entre eux, des élèves donc, essaient de s'échapper. 3 seront repris alors que le 4e disparaît mystérieusement enlevé par un homme en robe de bure et arborant un masque de médecin de la peste. C'est quand même la tenue avec laquelle on vient chaque semaine pour une heure en série, je ne vois pas où est le problème. Une série qui travaille jusqu'à la moindre de ces images d'Épinal, l'étrangeté et l'inquiétude, avec des atouts perturbés, amnésiques pour certains, malentendants pour d'autres, libidineux pour une large majorité, et surveillé entre autres par un moine sexy, il faut dire les choses quand même, pas mal, et un professeur de musique aussi séduisant qu'équivoque et potentiellement dangereux.
Je tiens à vous rappeler que si vous êtes ici, c'est parce que plus personne ne veut de vous. La vérité, c'est que la société, sans oublier bien sûr vos familles, ont cessé d'avoir confiance en vous.
Ces gosses ne sont qu'une bande de vauriens sans cœur.
J'ai un truc à te montrer. En particulier le célèbre ordre du Nid du Corbeau. Il y en a partout dans l'internat.
Il se passe quelque chose.
Il se passe de drôles de choses ici et si jamais ça venait à se savoir, je suis prête à parier que ça ferait scandale.
Dans cette congrégation, sommes investis d'une mission, celle de lutter contre le démon.
L'Internat Las Cumbres, une série remake de celle éponyme diffusée en Espagne entre 2007 et 2010. Quelqu'un l'a vu?
Non.
Quelqu'un a envie de la voir? Voilà, mec. Cette nouvelle mouture est signée Asieran De Rosa et Laura Belloso, cette dernière en assurant également une partie de la réalisation avec dans les rôles principaux Asia Ortega, Alberto Amaria et Mina El Amani. Si vous êtes ici, c'est que plus personne ne veut de vous. C'est un peu la définition que je pourrais avoir aussi des chroniqueurs et des chroniqueuses. Mais c'est une méchanceté gratuite. Isabelle, oui, lorsque nous échangions gratuite. Sur cette série, vous avez eu un mot d'une justesse absolue. Mais elle dit, mais quelle sale migondie. Et c'est effectivement... Voilà. Le mot qui convient.
C'est... Oui, d'ailleurs, j'avais l'intention de le redire. Là,
et bien,
c'est
comme si vous ne m'aviez pas entendu, je vous le rends.
Alors, ben, on va commencer par ce qu'il y a de mieux, le lieu, le monastère perché. Voilà, on va faire court. Le monastère perché sur la montagne, c'est superbe, on le voit à peine. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, l'école est d'un autre âge, les jeunes gens délinquants, la directrice sadique... Voilà, c'est assez terrifiant. Alors, on se demande bien ce qu'ils apprennent là-dedans, parce que globalement, on les voit très très souvent en cours de gym dehors, en train de faire des mouvements. Donc voilà, il y a vaguement un cours de musique absolument et un cours de latin, j'allais le dire. Sinon, on se demande
c'est
qu'ils apprennent
dans la vie,
parce qu'on
le latin,
les voit.
La musique, ça sert.
On les voit en short, on les voit prendre leur douche, sortir de la douche, aller se coucher, sortir du lit.
Mais il y a plein de mystères. Est-ce que ça fonctionne? Il y a plein de pistes. Hein,
oui, des pistes, il y en a plein, parce que globalement, le salmigondi suscité, ça va de la religion à la scarification, en passant par les bienfaits des plantes, l'homosexualité, le traitement de l'amnésie, l'amour à trois, l'exorcisme, les meurtres rituels et l'amitié.
Vous avez oublié votre adolescence. C'est le lot quotidien quand même quand on a 15 ans.
Alors, je sais bien qu'il en faut pour tous les goûts, mais là c'est vraiment au pied de la lettre. Et le problème surtout que moi j'ai, c'est qu'apparemment c'est interdit aux moins de 16 ans. Et du coup, je vois vraiment pas à qui ça s'adresse.
Benoît.
Oui, alors c'est peut-être la série la plus navrante de la semaine. Ça c'est, oui, ça, non, c'est une évidence. Sauf que, bizarrement, à chaque fin d'épisode, moi j'avais envie de voir la suite.
Mais t'as toujours envie de voir la suite.
Moi aussi, je témoigne en faveur de Benoît. Je me faisais avoir à chaque fois.
Oui, on a toujours envie de savoir si ça va mieux jouer dans l'épisode d'après.
Non, alors ça, on peut répondre sans rien spoiler, sans rien révéler. Non,
et surtout, si vraiment il y a quelque chose qui va se développer parmi toutes les pistes qu'il lance.
Ben
or,
non.
Rien du tout. Et moi, ce qui m'a. Au final, la plus grande faiblesse de la série, c'est que quand on arrive au dernier épisode, on se dit qu'on va enfin avoir la révélation.
Mais non,
on va y avoir une saison 2. Mais moi, je peux pas y aller à la saison 2 parce que je veux me faire encore piéger. Non, le gros problème. C'est, qu'il y a
c'est vrai que sur les 30 intrigues, il y en a à peu près 2 qui sont vaguement résolues.
Tout tient sur ces adolescents qui ont des problèmes. Donc ça veut dire une psychologie particulière, une psychologie fine. Il n'y a pas de psychologie. Ces personnages, c'est des pions dans un jeu de pistes. Et plus ça avance, plus ils sont des pions dont on se lasse. Voilà, et on se soucie de leur on s'en soucie en fait de leur devenir. Et c'est ça le gros problème d'une série, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on s'inquiète un peu pour eux et pas juste du mystère, du fameux mystère dont on nous révélera rien d'ailleurs.
Et alors, je sais pas vous, mais j'étais tellement interchangeable que je ne savais jamais très très bien qui avait été kidnappé, qui sortait avec qui.
Enfin, ils se ressemblent tous.
Les garçons, les filles, encore, on les distingue un tout petit peu, mais les garçons, c'était une catastrophe, c'est modèle unique. Marjolaine, vous qui êtes une adolescente et qui vous souvenez de vous et moi, de ces amours à trois dans les toilettes publiques.
J'écris pour les adolescents et je déconseille absolument cette série pour les adolescents et pour les autres. À la rigueur, pour les adultes, moi j'y vois un intérêt, effectivement, c'est un soft porn sadique, où des ados sont joués par des adultes.
Vous le vendez vachement bien, là.
Ils ont des corps.
J'ai envie de le regarder à nouveau.
Incroyable. Mais évidemment, et en fait, le seul intérêt de cette série, c'est de voir quelle est la prochaine torture que l'on va infliger à ces pauvres corps qui ne semblent en demander davantage et qui se sautent dessus à la première occasion. Parce qu'effectivement, la seule chose qu'ils font, à part effectivement le latin et la musique,
et c'est la gym.
C'est s'envoyer en l'air dans toutes les positions.
C'est leur cours de bio.
Et de façon extrêmement dénudée. À part ça.
Mais il y a quand même du mystère de l'opacité. Quelle est cette loge mystérieuse?
De loin, moi, ça m'a fait penser à un Harry Potter un peu dark. Mais de très, 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 très loin.
Arrêtez, vous me redonnez envie de le voir.
L'environnement géographique et historique. On est quand même dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. À des moments, c'est évoqué. Moi, je me suis dit, ouh, chouette, un petit peu de géographie, un petit peu d'histoire, un petit peu d'inquisition, un petit peu de religion. Non, ça reste, effectivement. Oui, il faut avoir un côté un peu pervers et effectivement avoir envie de voir ces personnages auxquels on ne s'attache pas du tout, torturés dans tous les sens. Et là, effectivement, on peut y trouver du plaisir.
Mais bien, très bien. C'était l'Internat Las Cumbres, disponible sur Prime. Et je suis sûr que vous avez donné envie aux auditrices et aux auditeurs d'y risquer un œil.
Ya lleva a mi niño preso en más de 400 días. Le tenía abrazo en la cama cuando llegó la policía. Y un beso pude le pedía. Y eso me arde.
De Rosalía, révélé fin 2018 avec l'album El Mal ou RR. Mais je suis pas sûr de ma prononciation. La chanteuse de 26 ans, arrêtez de vous moquer, n'a eu de cesse depuis d'affirmer son style unique, style qui marque son territoire du côté d'un flamenco. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris, incandescent et déchirant. La preuve avec ce titre qui évoque une femme dont l'époux est incarcéré depuis 400 jours. Je ne saurais trop vous recommander de découvrir le clip de cette chanson qui est vraiment un bel hommage graphique au cinéaste espagnol que nous aimons tous, Pedro Almodóvar.
France Inter. Série.
Mauvaise série, mais j'espère bon conseil littéraire en vis-à-vis de l'internat. Je vais me permettre de vous recommander Le Bois, qui est un superbe roman du néerlandais Jeroen Brouwers. Mais pourquoi j'ai pris que des langues que je ne parle pas, moi, aujourd'hui? Paru aux éditions Gallimard en octobre et magnifiquement traduit, ça je tiens à le préciser, par Bertrand Abraham. On oublie trop souvent de citer les traducteurs. Nous sommes dans les années 50, au cœur d'un pensionnat catholique à la rigidité excessive. Pléonasme. Un lieu clos dont le but ultime est moins d'élever les âmes que de rabaisser le corps et l'esprit des enfants qui y sont placés. Depuis une expérience que l'on imagine très personnelle, Jeroen Brouwers, qui enfant fut régulièrement confié aux mauvais soins de cette institution, l'auteur se glisse le temps du roman dans la peau d'un jeune prêtre professeur dans cette prison religieuse. C'est plus le hasard que la foi qui l'a conduit à accepter ce poste, lui qui n'a pas renoncé au doux chant des amours charnels. Témoin des maltraitances, des attouchements et des viols subis par les enfants, le frère Bonaventura essaie essaie de se tenir à distance jusqu'au jour où un adolescent disparaît. Un roman sur l'hypocrisie de ces institutions, mais surtout sur la prise de conscience, sur ce moment de bascule morale où il est impossible de fuir ses responsabilités plus longtemps et où il faut apprendre à se dresser contre les autorités destructrices. Un roman servi par une prose magistrale qui encercle le lecteur à l'image dont les événements claquemurent le héros et le narrateur, un style oppressant et envoûtant qui sert à merveille ce texte en forme de sombre étau, spirituel et humaniste. Le Bois de Jeroen Brouwers, paru aux éditions Gallimard. Deuxième débat, c'est le gros morceau de la semaine, si je peux me permettre de dire cela. Small Axe, une série britannique en 5, ouvrez les guillemets, épisode, fermez les guillemets sur Salto. On va comprendre dans quelques instants grâce à votre débat. Une série qui a reçu le label Cannes 2020, qui aurait dû donc être projetée à Cannes et peut-être sortir en salle. Hélas, la pandémie est passée par là. Composée donc cette série de 5 films, dont la durée oscille entre 2h10 pour le plus long et 1h pour le plus bref.
Ouais, je dis pas de bêtises,
1h05, c'est ça. 5 histoires parmi lesquelles certaines sont véridiques, comme celle par exemple du Mangrove, qui narre le destin du propriétaire d'un restaurant ethnique surveillé et harcelé par la police londonienne, ou encore celle d'Alex Whittle, incarcéré à la suite des émeutes de Brixton au début des années 80 et qui devint par la suite un écrivain réputé pour les adolescents. 5 histoires indépendantes mais reliées entre elles par une thématique et une ambition commune, rappeler l'ostracisme qui sévissait dans la seconde partie du XXe siècle en Angleterre et dont les Noirs furent les premières victimes. Une époque où la seule couleur de peau était suspecte et presque un crime en soi. Une série en forme de devoir de mémoire pour rappeler une fois encore, mais jamais une fois trop, la discrimination, le déterminisme social, la délinquance, la lutte des classes, les quartiers à l'abandon, les ghettos favorisés par les pouvoirs publics, ainsi que les interventions très musclées de la police au sein de laquelle régnait un racisme endémique. Une série d'anthologies donc, pour dire aussi la culture noire, l'arrivée du reggae et cette bataille de chaque jour pour exister et avoir le droit simplement de relever la tête.
A demonstration took place against the police, which degenerated into totally inexcusable violence. There may be some who believe that they have been the victim of injustice. There are others who, like parasites, feed on these beliefs and seek to turn them to their own advantage, deliberately creating hate and violence. These defendants are all guilty of the serious criminal offense.
This attack on a black establishment is not an isolated event.
We are the small axe, sharpened to cut you down.
Small Axe, une série de 5 téléfilms écrits, produits et mis en scène par Steve McQueen, cinéaste britannique, auquel nous devons entre autres Shame, Hunger ou encore 12 Years of Slave. On y retrouve le style engagé, jamais apaisé du cinéaste dont la pugnacité militante est portée par l'extrême mobilité de la caméra. On ne peut hélas pas tous les citer à l'antenne, mais cette série est portée tout au long par pléthore de comédiens et comédiennes anglais absolument remarquables, comme toujours, serais-je même tenté de dire, parmi lesquels... en guise de vedette, entre guillemets, John Boyega, que l'on connaît donc de la dernière trilogie Star Wars. La presse est dithyrambique. J'ai gardé Télérama, qui parle d'un manifeste vibrant d'optimisme qui rend hommage à la résistance et à la créativité d'une communauté. Et je tiens à vous interpeller sur le magazine, l'excellent magazine de cinéma Positif, qui fait la une sur Small Axe, alors que ça ne sortira pas au cinéma, et qui consacre à cette série plus de 15 pages d'analyse, de critique de chaque épisode, et une très longue interview de Steve McQueen, assez passionnante. Bon, le type n'est pas d'une générosité, d'une gentillesse sans nom, mais la qualité de l'intervieweur pallie un tout petit peu cette réserve, c'est absolument passionnant, c'est Positif, voilà, qui donc fait sa une sur Small Axe. Benoît.
Alors oui, série de téléfilms. En fait, c'est une anthologie et comme il en existe à la télévision depuis longtemps, donc chaque épisode, chaque film étant une histoire. La différence, c'est qu'ils sont de durée aléatoire et qu'effectivement, en général, les anthologies, c'est des formats un peu plus courts. Bon, très bien. Là, c'est 2h à 1h chaque épisode. Ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode se répond. Moi, c'est ça qui me plaît, à part peut-être un et j'y reviendrai. Mais globalement, il y a des questionnements soulevés dans chaque film. Et l'autre film vient apporter sa patte au questionnement. Et ça, je trouve ça vraiment très réussi. Et quand on arrive au dernier...
Oui, c'est pas aléatoire, il y a un ordre. Enfin, il y a comme une façon très rigoureuse d'écrire les films en écho les uns
par rapport aux autres. Par exemple, dans le premier, on voit bien qu'il y a des personnages qui veulent se défendre eux-mêmes devant la justice. Donc, il faut un certain savoir...
Le mangrove, une
certaine éducation pour pouvoir parler au tribunal. Le dernier épisode se termine sur l'importance de l'éducation. Donc voilà, juste pour vous donner cet exemple-là. Donc ça, c'est très réussi. Après, les films sont, selon moi, réussis, très réussis ou un peu ratés. Je trouve que, par exemple, le deuxième, Lovers Rock, qui est le plus musical, censé être le plus musical et qui renvoie peut-être aussi au titre, Small Axe, qui nous fait penser quand même à la chanson de...
Il se passe le temps d'une soirée musicale dans une maison avec le reggae, justement, que c'était tout à l'heure.
Et donc là, dans cet épisode, on voit que Steve McQueen se fait juste plaisir à montrer qu'il aime filmer un objet, qui dure une heure, mais sauf que on ressent pas la musique, ces personnages, moi je les trouve pas très intéressants, et voilà. Et ça m'a longuement ennuyé, alors que c'est un des plus courts. J'ai beaucoup aimé celui sur le troisième, autour de ce scientifique qui décide de s'engager comme flic, parce que c'est peut-être le moins manichéen des films aussi, et le plus touchant. Chaque film nous révolte, et c'est là où moi je trouve que c'est une œuvre utile, c'est que ça nous fait l'effet comme les films de Ken Loach qui nous mettaient face à une réalité, et que quand on a éteint sa télévision après avoir vu ces films, on a envie de se battre avec eux.
Marjolaine, vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur la réserve qu'avait Benoît sur Lover Rock.
Pour moi, c'est le plus beau.
C'est ce qu'a beaucoup écrit la presse britannique. Bon, après, chacun fera son marché, entre guillemets.
Effectivement, et c'est un style très différent des autres, parce que c'est un film quasiment muet.
De trans, d'immersion, de sensualité.
Et on est dans cette soirée, et moi je trouve que c'est vraiment du cinéma, pour le coup, beaucoup plus que la télévision. Les quatre autres épisodes sont beaucoup plus écrits, parfois très démonstratifs. Hein.
C'est parfois la limite, nous sommes d'accord.
Mais moi, je trouve que c'est l'équivalent de ce que a été The Wire au début des années 2000, sur la prise en compte justement de la diversité et des difficultés auxquelles était confrontée la communauté noire américaine dans les grandes villes. Là, il y a vraiment cette dimension européenne du racisme et la question des violences policières qui est vraiment au centre des épisodes à part dans Lovers Rock. Et moi, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre la colère de John Boyega au moment des manifestations à la suite de la mort de George Floyd donc à Londres, quand il a pris la parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, allez sur Internet, voyez son discours justement où il appelait vraiment les Noirs britanniques à se prendre en main et à s'émanciper, parce qu'il est question finalement dans cette série de films d'émancipation, de prendre le pouvoir, de prendre conscience de qui on est, de savoir qui on est. Et au centre de tout ça, pour moi, ce qui fait le lien, ce sont les émeutes de Brixton de 1981, qui sont toujours évoquées, mais jamais montrées, qui sont ce moment où donc ce quartier peuplé essentiellement de Noirs issus des anciennes colonies britanniques s'est rebellé contre la police.
Isabelle Danel, juste pour préciser que donc Steve McQueen revient en Angleterre pour donc cette série de 5 films après une carrière américaine qui avait très bien commencé et qui s'est terminée par un film un peu plus commercial. Donc on sent qu'il a quand même quelque chose à dire et qu'il a cette pugnacité qui est la sienne. Isabelle.
Oui, pour moi, on est totalement dans l'univers de Steve McQueen qui, depuis son premier long métrage, est vraiment le cinéaste du corps, à part ce film dont vous parliez,
Les Veuves,
qui était un petit peu différent, plus film grand public, est un film qui a de vraies qualités. C'est le cinéaste du corps supplicié par soi-même, donc La Grève de la faim ou L'appétit sexuel dans Shame, par les autres, donc les esclaves, 12 Years a Slave. Et dans cette série, tous les épisodes sont vraiment dans ce rapport-là, cette mouvance-là. Et le regard sur les corps, donc qu'ils soient molestés ou qu'ils soient des corps qui dansent, je suis d'accord avec vous que Lover's Rock est un peu différent, mais néanmoins c'est l'espèce de bouffée aussi de bonheur et de chaleur et de plaisir d'être ensemble.
On retrouve le Steve McQueen plasticien puisqu'il vient aussi de cet art.
Donc moi ça me plaît énormément. Moi j'ai une vraie passion pour le premier que je trouve remarquable.
Ce restaurant donc harcelé par la police.
Je le trouve d'une force incroyable. Je trouve que tout ce qui est raconté là, tout ce qui est dit là, est d'une puissance incroyable. Et il est dit dans cet épisode-là, dans également le troisième avec John Boyega, que l'évolution ne peut venir que de l'intérieur, que donc c'est comme ça que Steve McQueen travaille et c'est de ça que ça parle. C'est-à-dire que il n'y a aucune possibilité que ça vienne, enfin, il y a très peu de possibilités que ça vienne des Blancs, et donc il faut que ça vienne des Noirs.
Qui sont un tout petit peu manichéens, quand même, dans les cinq épisodes.
Oui, bah, c'est pas eux qui ont commencé. C'est pas lui qui a commencé, je veux dire.
Mais non, mais je suis entièrement d'accord. Mais
voilà,
quand on a,
c'est tout, c'est comme ça.
Quand on a cinq épisodes, on peut quand même apporter un peu de nuance.
Non, parce que finalement, en 100 ans de cinéma, il y a eu tellement peu de nuances qu'après tout, il a le droit. Je suis d'accord, je me suis fait la même réflexion, mais j'ai pas envie de céder à ça, quoi. Parce que, encore une fois, il est de l'intérieur, il montre effectivement des personnes, des humanités, il est d'une générosité incroyable dans sa façon de filmer, de regarder. Et oui, c'est vrai, le flic de Mangrove est particulièrement moche et désagréable, etc. Eh ben, tant pis pour lui. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement, c'est idiot, mais c'est comme ça.
C'est très bien dit, Chérie
Labelle. Se passer du sauveur blanc une fois, ça fait du bien quand même.
Et en plus, il y a une utilisation de la musique que je trouve absolument remarquable, non seulement bien sûr sur le reggae, on l'a dit, et sur la calypso et tout ça, mais sur aussi les standards de ces années-là, et sur la façon dont il récupère des standards noirs qui sont utilisés dans les films blancs et qu'il utilise différemment. Et notamment, ça se passe, le premier se passe à Notting Hill, et il y a une des chansons de Notting Hill qui est magnifiquement utilisée dans le troisième épisode, une embrassade entre un père et son fils qui sont pas du tout d'accord. Et c'est, je trouve, une façon absolument magnifique d'utiliser la musique. Et c'est vraiment, c'est une grande œuvre.
Alors donc, c'était la série Small Axe pour l'instant sur Salto. Peut-être que, comme Salto diffuse en avant-première des séries qui de temps en temps atterrissent sur le service public ou sur TF1, peut-être que grâce à ce débat et grâce à la presse enthousiaste, une chaîne aura la bonne idée de programmer Small Axe. C'est compliqué parce qu'on l'a dit, la durée n'est pas uniforme. Mais en tout cas, c'est un grand moment, peut-être une sortie DVD. On vous le recommande comme positif une fois encore. C'était Small Axe, la série de Steve McQueen en 5 téléfilms, engageant, militant, cultivé et enragé.
In my area cold, dark skin, light skin, medium tones, pumped in grays, got mini afros, thick lips, got hips, some of us don't, big nose contour, some of us won't, never wanna put us in the media, bro, wanna fat booty like Kardashians, wanna fat booty like my auntie got a yo, we like the blood clot, tell her reload it, I've got the camera, my girls are posing, I need some backup, then my ones are rolling, grown women things, I'm never at risk, mind my own business, I'm never in mess, who am I, I ain't bae, get a slice of the cake, want a house with a view, and a new pair of shoes, keep it real from the jump, Gucci gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth. Do you, they don't care. Do you, they don't care. Get your ass out the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nikes cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ leather jacket cause I think I'm bad.
That's cool, I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright.
Like I'm some time away.
More put them in cursive, deep like I'm burying hearses, preach like I'm doing up churches, sin for a bit, I got urges, they got Chanel bags and purses, and I got some mashed up vans that I won't throw away cause I'm needy and hurting, I keep it in cause I can, I seen the drinks and the cans, I think it's in my genetics, so the gin and the juice that I drink, I'm indebted, so if I fall off, it's expected, wow, gather your thoughts and collect them now, penny for my thoughts, make a fortune, bow, how'd you keep rapping off beat, bro, how, talking about you getting on the tracks, this when, everybody's here, we don't need more friends, just do you, you ain't gotta pretend, just do you, you ain't gotta pretend, he was doing school while they were doing ends, now he's doing money and them men are doing pen, you know about 6 or 5 of the men, you know about half of the men follow trends, he said to me, they put guns in the streets, that's what they wanted for me, and I said, gee, someone can fix you a plate, but no one can force you to eat, like when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets, and when will we come together as a tribe and be what intended to be, yeah, I just wanna be free, yeah.
Okay, alright, 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 okay, alright,
Pen Black Girls dénie le nouveau titre de la chanteuse londonienne qui rend un hommage politique et mélodique aux femmes noires, à leur beauté et à leur force. Et ne vous fiez pas aux apparences. Si la voix est comme cela douce et enjôleuse, l'engagement du texte n'est pas moins affirmé et militant.
France Inter. Une heure en série.
L'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et ce soir, je vois vos yeux plissés, vous êtes en train déjà de rigoler derrière le masque. Et ce soir, vous vous arrêtez sur la soirée télé de Nicolas Sarkozy, le jour où il a appris sa condamnation lundi soir dernier. Oui, mais vous... que faisait Nicolas ?
Ben oui, donc vous le savez désormais, Xavier, je ne suis pas un être tout à fait normal, puisque je n'arrive jamais à me déconnecter du monde des séries. Une actualité tombe et bim, elle me renvoie à un épisode, un personnage ou une série. Alors bien évidemment, quand l'actualité politico-judiciaire de cette semaine est tombée, je me suis d'abord dit vivement Sarko, la série ! Non mais la vie de cet homme et l'impact de sa politique sur la France de 2021 est tellement riche que ça vaudrait une série. La décision de la 32e chambre correctionnelle qui le condamne pour corruption et trafic d'influence à 3 ans d'emprisonnement, dont un enferme, ça ferait un bon cliffhanger de fin de saison. Un peu comme quand on a tenté de tirer sur JR, vous savez, dans Dallas, avant de se faire appel la saison suivante et de renaître de ses cendres. Et je me suis dit ensuite en fait que cette actualité ferait surtout un bon effet miroir. Politique et corruption se mêlent dans tellement de scénarios de séries que je ne savais plus du coup à quel saint cathodique me vouer, vers quelle série, quel épisode, quel personnage. J'ai pensé un temps à me replonger dans la première saison de Baron Noir. Hein.
Oui.
Ou Cadmérade, enfin Philippe Rigvart, voit la brigade financière enquêter sur des financements occultes de campagne électorale. J'ai pensé aussi un instant revoir House of Cards hein, autour du personnage machiavélique Frank Underwood ou son modèle britannique, disponible d'ailleurs hein, sur Arte en ce moment. Trop de pistes, trop d'idées, mais voilà, fort heureusement, l'ancien président a fait le boulot à ma place. À peine apprenions-nous sa condamnation que dans une interview exclusive au Figaro, Sarkozy choisissait pour moi, en effet, à la première question des journalistes, qu'avez-vous fait après votre condamnation ? Étiez-vous en colère ? L'ex-président répond, j'ai passé la soirée avec ma famille, nous avons regardé la série The Killing. En colère, non.
Non. Donc là, ni une ni deux, évidemment, vous vous êtes replongé dans The Killing.
Exactement. Alors d'abord, je me suis demandé de quel Killing parle-t-il, de la version américaine ou de la version scandinave. Bon, je me suis dit que chez les Sarkozy, on regardait Arte, donc on choisit la série originelle qui est en intégralité actuellement sur la plateforme d'Arte. Une série qui allie donc polar noir et thriller politique. Alors petit rappel, en saison 1, après la découverte du corps d'une jeune fille, les investigations prennent un tournant particulier quand un homme politique, candidat à la municipalité de Copenhague, se retrouve lié à l'affaire. Alors était-ce la bonne série pour Nicolas Sarkozy ce soir-là. A-t-il eu raison d'évoquer dans cette interview la célèbre série scandinave qui met en scène un homme politique pas très clair et un entourage pas très net ? Était-ce une bonne idée de communiquer sur le fait qu'il regardait ce soir-là une série où une enquêtrice n'hésite pas à poser les questions qui dérangent à un homme politique qui a les dents longues, un type, son nom c'est Hartmann, hein, qui pense à son avenir politique, pas simplement quand il se rase, vous voyez. Quoi qu'il en soit, ce qui m'a amusé un instant, c'est de me dire que le soir de sa condamnation en famille, Sarkozy pouvait être en train de regarder cette scène de l'épisode 2 de la saison 1, juste après la première confrontation entre la policière et l'homme politique. On a retrouvé la jeune fille assassinée dans un véhicule qui appartenait à l'équipe de campagne du politicien. Inquiet, le candidat se demande si cette affaire, et peut-être d'autres, où il est question notamment d'espionnage politique, qui sait peut-être d'écoute, le candidat s'épanche auprès de sa conseillère, qui est aussi son amante. Écoutez.
C'est une bombe à retardement.
On ne sait pas qui était au volant, il n'y a pas de raison de publier quoi que ce soit.
Tu crois ça ? Si la presse tombe là-dessus, tu es fini.
Est-ce que quelqu'un d'externe peut avoir accès à des données confidentielles ?
Pourquoi ça devient l'idée ?
Les infos circulent partout. Via nos ordinateurs, le réseau local, le bouche à oreille, ça va vite. Une ancienne collaboratrice est venue ici, tu te souviens ? Celle qui collecte des fonds.
Oui.
Un journaliste lui a posé des questions très surprenantes et orientées, comme s'il avait eu mon agenda entre les mains.
Mais enfin, pourquoi tu ne m'as rien dit ?
Je le fais maintenant. Non, c'est rien.
Je ne suis pas de cet avis. Ça peut être grave. Je vais me renseigner, promis.
On voit ça ensemble.
Non. Je veux que tu te reposes avant d'affronter le parti du centre demain.
Moralité, moi j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir le visage de l'ancien président devant sa télé regardant en famille The Killing. Mais bon, moi j'avais une série à regarder.
Merci beaucoup Benoît, l'effet miroir, une chronique à savourer et réécouter en podcast et en rediffusion tout à l'heure dans la nuit samedi à dimanche à 2h du matin. Vous êtes toujours dans une heure en série sur France Inter avec ce soir Marjolaine Boutet, Isabelle Danel et Benoît Lagan, troisième débat Resident Alien, série américaine de 10 épisodes diffusée sur Sci-Fi. Le plan était pourtant bien réglé. Envoyé sur Terre pour éradiquer cette étrange espèce qu'est l'être humain, un extraterrestre devait donc nous éliminer avant de repartir tranquillement sur sa planète. Mais tout a foiré dès le départ. Son vaisseau s'est écrasé. Notre héros maléfique a donc dû auxir en catastrophe un tranquille habitant pépère d'un petit village pour prendre sa place. Choix malheureux car du coup le voici propulsé médecin d'une petite bourgade où entre un flic abruti, un enfant l'ayant démasqué et des agents secrets chargés de le récupérer, sa mission hégémonique s'avère chaque jour un peu plus compliquée. Le véritable hic, c'est que l'humanité qu'il croyait détester de tous les pores de sa peau globuleuse s'avère bizarrement beaucoup plus attachante que prévu.
Vous êtes qui, vous ?
Je m'appelle Harry Van Der Spiegel, je suis médecin. Il ne faut pas vous faire de soucis, je ne suis pas un extraterrestre.
C'est pas louche, peut-être ?
Vous venez de prendre une photo ?
C'était juste un selfie.
Oh, fiche. Resident Alien, une sorte de Alf pour adultes, mais sans les petits chats, est une série, on l'aura compris, oui j'ai deux imitations, Homer Simpson et Alf, c'est vous dire ma vie sociale quand même, une série, on l'aura compris, à la fois décalée et satirique, créée par Chris Sheridan, producteur et auteur d'une des meilleures sitcoms animées, j'ai nommé...
Family Guy.
Bravo les Griffins. Alors je ne sais pas, voilà, il y avait dans ce rôle, j'avais perdu mes papiers, de cet alien exterminateur, Alan Tudyk, comédien joyeusement burlesque que l'on a vu dans de nombreuses séries, telles que Aristide Development ou plus récemment Doom Patrol. Marjolaine, avez-vous été séduite par le charme un peu particulier de cette alien hégémonique ?
J'ai adoré cette série qui m'a replongée dans le moment où j'adorais les séries dans les années 90 et 2000.
Complètement.
C'est, en plus, pour moi, c'est l'Amérique rêvée. Cette petite ville du Colorado, ça m'a replongée dans Everwood, qui est sans doute une des séries que j'ai les plus aimées au début des années 2000. Donc, on sait très bien où ça va. Donc, cet alien qui est là pour détruire l'humanité, en fait, il va l'aimer. Et moi, j'aime cette Amérique sûre d'elle-même, de ses valeurs, que c'est la petite ville où tout le monde s'aime, où ils sont tous sympas, ils sont tous un peu bizarres, mais au final, on s'aime quand même. Et il y a un peu quand même de côté politiquement incorrect, parce qu'évidemment, il est alien, donc il connaît pas les codes, et donc il est un peu raciste, un peu sexiste, un peu, et beaucoup, misogyne.
Très fréquentable.
Il est absolument terrible avec cet enfant qui joue très bien. Le petit Judas Prenn dans le rôle de Max est assez touchant.
Qu'on entendait hurler à la fin de la bande-annonce.
Oui, et voilà, il y a un petit côté humour noir, beaucoup de sympathie. Je trouve que la représentation de la minorité native américaine est aussi assez moderne, finalement. C'est une série qui s'assume. Et Alan Tudyk et son double dans cette combinaison en latex qui doit marcher avec des échasses sont absolument incroyables. Bref,
il est formidable.
C'est du plaisir familial, regardez-la, pour le coup, celle-là, avec vos enfants, après ou avant une condamnation ou pas. C'est vraiment le moment pour se détendre et ça fait du bien de retrouver voilà, cette Amérique que j'avais peur qui ait disparu et au moins elle existe encore à la télé dans Resident Alien.
C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de séries où la communauté amérindienne est citée, incarnée par des personnages forts, puisque c'est l'infirmière, on va dire, hein, du cabinet médical, et ça raconte aussi plein de choses. On va pas tout révéler, mais il lui est arrivé un drame. On oscille vraiment, effectivement, entre la comédie la plus burlesque, avec le corps, quand même, un peu particulier de cet acteur, et puis des choses, effectivement, plus fines. Une autre petite fille va venir prêter main forte au petit garçon et elle est voilée. Ouais. Donc, là aussi, ce sont des petits détails, mais qui nous rassurent aussi sur la façon dont certains auteurs prennent en considération l'évolution positive de l'Amérique contemporaine. Isabelle, est-ce que vous avez craqué pour cette alien ?
Ah oui, complètement. Il est totalement ahuri, j'adore. Alors, bien sûr, il y a des passages obligés, il y a une espèce de... Voilà, il apprend à se servir de ce corps complètement étrange, donc... voilà, mais moi, ce que j'aime, c'est que ça parle aussi de série, puisqu'à un moment donné, il découvre la télévision et la série Law and Order, et donc, à un moment donné, il imite très très bien ce que moi, je ne sais pas faire, le clang-clang de la série. Il se sert de ce qu'il a vu dans la série pour décrire sa soi-disant vie à New York. C'est hilarant. Il y a des phrases sans filtre du genre « J'aime beaucoup votre peau basanée » à effectivement Asta qui est d'origine indienne. Il y a « Oh, vous vous êtes assis sur une boucle d'oreille à une dame qui a un piercing dans les parties intimes ». Enfin bon, voilà. C'est absolument n'importe quoi, mais le n'importe quoi que vous venez de décrire effectivement avec plein de choses très très modernes, très justes par rapport à l'évolution de la société. Effectivement, la jeune indienne, son papa et d'autres personnages dont on parlera. Il y a aussi, j'aime énormément l'assistante du shérif. Le shérif, lui, est noir et très très bas de plafond, alors que son assistante, qui est un peu ronde, est très douce, très intelligente. Elle voit plein de choses, elle sait dessiner, elle entend les gens, elle comprend
tout. Et elle sait enquêter, au contraire de son supérieur.
Elle sait enquêter, absolument. Et c'est d'ailleurs elle qui, la première, constate consolatrice devant les bizarreries de Harry. C'est pas un problème d'être différent de temps à autre. Donc voilà, c'est bien.
Il faut quand même dire aussi que notre héros apprend la médecine de manière accélérée grâce à Internet.
Oui.
Ce qui donne quelques problèmes.
Avec des tutos,
voilà. Et il y a une scène très osée quand même, mais que je trouve extrêmement savoureuse, où lors d'un examen gynécologique, il prend un selfie.
Oui. Oui. Donc, oui, juste après avoir dit, vous êtes assis sur une boucle d'oreille.
Donc il faut quand même comprendre que ça ose de temps en temps aller très loin. Et je trouve que ce grand écart, effectivement, entre quelque chose de sociétal et en même temps de totalement foldingue, eh ben, est plutôt réussi. Alors, Benoît, allez-nous vous suivre?
Oui,
allez-vous
nous suivre? Mais complètement. Mais je dirais que c'est même une grande série parce que, en fait, c'est très difficile de faire ce genre de série familiale, grand public, qui parle à tout le monde et qui porte quand même des sujets en elle. Alors, c'est produit par quand même Amblin Entertainment, les aliens y connaissent. Donc du coup, ils jouent avec toute la culture alien. L'alien est méchant, l'alien est drôle, l'alien est l'ennemi qui nous veut du mal, mais peut être celui aussi qui nous veut du bien. Enfin, c'est vraiment très malin la façon dont c'est écrit. C'est effectivement un hommage aussi à la télévision. On parlait de VandaVision au début grâce à l'auditrice. Je pense que c'est...
Je crois que c'était un auditeur.
Un auditeur. Aussi, je crois. C'est pas... oui, excusez-moi.
C'est fini, genre, même Monsieur Patate n'existe plus, voilà. Alors c'est bon.
Non, mais là, par exemple, il y a tout un épisode qui s'ouvre sur le générique de la sitcom Cheers et qui fait penser d'ailleurs à VandaVision. Il y a plein de références. Il y a une série qui est très peu connue en France qui s'appelle Bienvenue en Alaska, qui était passée sur Série Club un temps. L'histoire d'un médecin de New York qui débarque dans un village de l'Alaska. Notre alien a la même voiture que ce médecin de Bienvenue en Alaska.
Ah, et il vient de New York.
Très très loin. Il y a beaucoup d'influences, les références.
Et à la fois, donc c'est extrêmement drôle et tous les exemples que vous avez donnés sont exactement drôles.
Mais que les auditeurs se rappellent, c'est infinitésimal par rapport au nombre de gags qui existent dans la série.
Mais il y a du suspense, hein, parce qu'on sent bien qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette histoire pour essayer de choper l'alien, on va dire. Et puis, il y a beaucoup de poésie. À un moment donné, la femme de l'alien débarque, j'en dis pas plus. Mais il y a un moment de poésie où il est dans le corps d'un homme, en fait, cet alien. Donc, la femme de l'homme vient et elle lui chante une chanson qui fait fonctionner la mémoire du corps dans lequel l'alien est intégré. Et là, à ce moment-là, il se passe un truc en lui, et je trouve ça magnifique, j'en avais presque les larmes aux yeux. Donc c'est vraiment une grande série, et je rejoins
tout le monde. Qu'est-ce qu'il est sensible, notre petit Benoît. Parce que c'est Nature Boy de David Bowie, et c'est magnifiquement interprété.
Et par ailleurs, quelque chose à noter, les corps de tous ces comédiens nous ressemblent vraiment. Voilà, on peut avoir des hanches un peu imposantes, on peut avoir un regard un peu de traviole, et on est beau. Et c'est ça que je trouve vraiment bien.
Parlez pour vous, nous, on a tous un corps parfait. Je trouve très méchant. Il y a quand même une grande question existentielle que vous n'avez pas soulevée et qui est posée dans la question. Pourquoi les humains plient-ils la part de pizza qu'ils vont manger? C'est vrai. C'est un truc auquel je n'avais pas réfléchi.
Il y a une réponse, hein, on ne va pas la révéler.
Mais il y a une réponse. Voilà, donc... Ouais. C'est une série qui non seulement nous distrait, mais elle est aussi un versant pédagogique.
Tout à fait.
Et je tiens absolument à
le
préciser.
Et le générique est hilarant.
Oui.
Absolument. Donc, juste, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, nous n'avons vu que les 5 premiers épisodes de cette série. On est évidemment accro à la suite. Et on vous la recommande, Resident Alien, sur Sci-Fi, et peut-être un jour sur M6, je ne sais pas. En tout cas, c'est une série qui nous a enthousiasmés.
Je m'ennuie dans mon salon.
d'en face par Yael, extrait de L'air du Verseau, le dernier album en date du duo breton qui revisite avec, on l'a entendu, fraîcheur et délicatesse, une pop électronique intemporelle, rythmée et colorée. Pour les besoins du clip très haute couture de cette chanson, le duo s'est entouré de Nicolas Maury, l'un des agents de stars de la série 10%, et de Loïc Prigent, la star des journalistes de mode qui en signe la mise en scène.
France Inter, une heure en série.
Juste avant le plateau télé, hein, les coulisses de l'émission, le making-of pendant la chanson, ils n'ont pas arrêté de se rappeler les gags qui nous faisaient le plus rire dans Resident Alien. Ils avaient les larmes aux yeux, mais des gamins. Et si j'avais su aujourd'hui que ce serait la série de la semaine, ben je l'aurais programmé bien évidemment. Plateau télé, des petits conseils. Isabelle Danel, vous nous recommandez de découvrir sur MyCanal la série Butterfly.
Oui, absolument. C'est une série de 2018 qui raconte le combat déchirant d'une mère pour que sa fille Maxine naisse Max dans un corps de garçon puisse vivre la vie qu'elle désire. Maxine a 11 ans et sa différence n'est pas tous les jours aisée à affirmer dans un collège anglais où l'uniforme est de rigueur avec des gros durs qui la bousculent et des filles qui la moquent. C'est anglais, très très anglais, c'est fouillé, c'est osé car traité dans une mini-série d'un sujet si sensible que la transidentité chez une enfant si jeune n'est pas chose simple. Et ces trois épisodes de 43 minutes parviennent à décrire par le menu toute la charge émotionnelle pour Maxine, sa sœur, ses parents et pour tout l'entourage. C'est en fiction ce qu'était Petite fille, le documentaire de Sébastien Lifshitz qu'on a découvert cette année sur Arte.
C'était magnifique.
Et si je fais le parallèle avec ce documentaire, c'est parce qu'on retrouve beaucoup d'échos de l'un à l'autre. Des fois, c'est même extrêmement troublant. Les papillons, il y a énormément de choses qui font écho. Et c'est à mon sens la preuve que le créateur de la série, Tony Marchant, qui est un as des mini-séries avec des sujets de société, etc., a vraiment travaillé son sujet, en a parlé, l'a documenté avec soin. Et c'est aussi pour dire que cette histoire, aussi singulière soit-elle, atteint l'universel. C'est enfin pour souligner à quel point Butterfly est délicatement écrit et aussi très bien interprété. La gamine est incarnée avec force et rage par Cullum Bousford, qui avait l'âge du rôle, et sa mère avec une conviction tout animale par l'excellente Anna Friel, remarquée dans Marcella, dont je vous parlerai peut-être un jour dans un plateau télé.
Eh bien, ce serait une excellente idée, car c'est une excellente série. Vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que le travers, les écueils de cette série, ça aurait été la série à thèse, démonstratrice, montrer les épreuves que doivent traverser les enfants et leurs parents pour se faire accepter, entre guillemets. Il y a ça, mais je trouve que c'est très bien équilibré dans le romanesque. Et puis, effectivement, l'interprète principal est absolument magnifique. Donc, excellent choix. Merci beaucoup, chère Isabelle.
On a dit Canal, oui.
On va le redire, mais de toute façon, Butterfly sur MyCanal, on va y arriver. Alors, je m'en excuse par avance, ce ne sont pas des séries que vous pourrez voir tout de suite, dont je vais vous parler, mais je voulais évoquer la sélection de séries à la Berlinale, le Festival de Berlin, qui est vraiment l'un des premiers festivals de cinéma internationaux à avoir affirmé depuis 3-4 ans une sélection de séries. C'est pas comme ça en loose day, c'est pas comme ça pour accueillir quelqu'un, c'est vraiment 6 séries. Il y en avait 5 de fiction et une documentaire cette année. Et franchement, et ben là, il y avait une graduation l'année dernière, c'était un peu moyen, cette année c'était formidable. La preuve avec It's a Sin, la nouvelle série de Russell T. Davis dont nous parlerons dans 15 jours, donc on va là. Mais moi j'ai d'autres coups de cœur comme Snow Angel, une série suédoise d'Anna Zachrisson qui est un polar anxiogène autour de la disparition d'un nouveau-né le jour de Noël, disparition à laquelle la mère pourrait ne pas être étrangère. Alors, dit comme ça, c'est un peu glauque comme point de départ pour ce polar glacé et glaçant. Je sais que c'est une expression que j'utilise souvent. Mais c'est sauvé par une écriture qui, dès le deuxième épisode, remonte en arrière, en fait, et nous ramène au moment où l'accouchement n'a pas eu lieu, où l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, et va ramener justement tous les éléments et peut-être d'autres personnages périphériques comme explication possible au drame qui s'est effectué, drame dont nous ne savons rien. Premier épisode, ça s'achève sur le moment où peut-être que la mère est responsable de la disparition de l'enfant. Donc un vrai mystère, une vraie épaisseur et une vraie ambiance suédoise. C'est-à-dire que voilà, c'est pas joyeux, hein, c'est un peu frigorifique. Mais qu'est-ce que c'est bien ? Autre polar, Entre Hommes de Pablo Fendrick. Pablo Fendrick, les cinéphiles le connaissent bien. C'est la semaine de la critique qu'il avait révélée en 2008 à Cannes. Et une intrigue policière qui nous replonge dans les années 90 à Buenos Aires. Alors c'est une intrigue entre hommes. Même ceux qui portent des jupes, hein, ont le service 3 pièces, comme on dit un peu vulgairement sur RTL par exemple, dans une émission que je ne citerai pas, mais c'est un polar vraiment référencé, assez sordide et en même temps plein d'humour que j'ai vraiment trouvé remarquable, qui raconte aussi une époque, qui raconte une société, c'est le talent de Pablo Fendrick, et ça ce serait très bien par exemple pour Arte, parce qu'il y a vraiment du cinéma, il y a vraiment une étoffe narrative,
on va les appeler.
On n'est pas cher, hein, on prend pas cher pour les conseils. Et la dernière série, alors elle est complètement atypique, mais je dois avouer que j'ai marché complètement. Elle s'appelle Os Últimos Días de Gilda, les derniers jours de Gilda, du brésilien Gustavo Pidi, qui avait signé le très beau La vie comme elle vient au cinéma avec cette mère courage, Ken Loach. Voilà, alors c'est complètement différent, il a adapté un seul en scène. Alors on se dit, en série, c'est pas gagné, c'est un spectacle très féministe, très féminin. Nous sommes dans une petite rue qui vraiment représente, j'allais dire, le Brésil contemporain, avec son meilleur et avec son pire, hein, j'allais dire. Et Gilda, bah, c'est une femme qui dérange parce qu'elle est plantureuse, parce qu'elle aime les hommes, parce qu'elle aime la bouffe, parce qu'elle aime la baise. Soyons quand même très clairs. Alors elle a ses adeptes, hein, ses amants, de passage. Le polyamour, c'est son truc. Et en même temps, elle a face à elle, dans la maison, bah, deux austères religieux qui voient très très mal la voix de Satan, comme ça. Et à partir de ce seul en scène, il faut reconnaître que donc Gustavo Pizzi a tricoté une intrigue qui raconte dans une petite rue un peu colorée, comme ça on dirait du Jacques Demy de temps en temps, une situation très problématique et une fraction quand même malheureusement pour l'instant irréversible du Brésil contemporain. C'est remarquablement fait, c'est remarquablement écrit. J'espère vraiment que nous pourrons la découvrir un de ces jours. Une heure en série, c'est fini. Et oui, mille merci déjà à vous, Marjolaine, Isabelle et Benoît, d'y avoir participé avec ce talent et ce sens de la surprise quand même, hein, que vous nous avez réservé ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé ou pas, L'Internat, Las Cumbres sur Prime, je crois qu'on est tous d'accord pour oublier cette série, Small Axe sur Salto, là en revanche nous sommes tous d'accord pour la découvrir, et puis la petite pépite inédite de la semaine, Resident Alien sur Sci-Fi. La semaine prochaine, nous évoquerons We Are Who We Are sur Stars Play, une série également signée par un grand cinéaste, puisque c'est Luca Guadagnino qui l'ont devé, entre autres Amore et le remake récent de Suspiria, et nous parlerons d'une série qui se passe aussi dans les Pyrénées, également espagnole, qui s'intitule La Casa Monte Perdido sur Canal+. Demain soir, ne manquez pas Le Masque et la Plume avec Jérôme Garcin, consacré au 7e art de patrimoine, puisque les salles sont encore fermées. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche à 2h, un site internet, Le Courrier, vous connaissez la marche à suivre. L'émission a été réalisée comme toujours et en demain de maître par Marie-Annick Rimbaud, la programmation musicale signée Muriel Pérez, préparée avec Amel Caldi, et ce soir, à la technique, l'excellent Pierre Faucillon.